Paris accueillera les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Est-ce que l'organisation de ces Jeux peut vraiment avoir une incidence sur l'inclusion sociale des personnes handicapées? Si oui, comment? On le découvre dans un instant au Signal. Bonjour vous tous, ici Kevin Breton, ce vendredi 5 décembre. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Au Signal. Aujourd'hui, des correspondances en France. On va s'entretenir avec Emmanuelle Asman, devrais-je plutôt dire, présidente du comité paralympique français. Le comité paralympique qui est présentement en branle-bas de combat pour organiser les Jeux de Paris en 2024. Ce sera très bien de pouvoir parler avec eux, à savoir ce sera quoi les retombées de ces pareils Jeux sur l'accessibilité, mais aussi l'inclusion sociale des personnes handicapées. On va aussi avoir le point de vue de l'activiste et avocate Elisa Roja, elle-même en fauteuil roulant, qui habite à Paris. Mais je commence tout d'abord par vous donner des petites nouvelles de notre comité paralympique canadien. Donc, de nouvelles subventions sont disponibles pour aider à couvrir les coûts des programmes de développement du sport paralympique. C'est ce que le CPC a annoncé hier. Ils invitent du même coup les organisations et les clubs sportifs canadiens à poser leur candidature à compter d'aujourd'hui pour la ronde de subventions 2018-2019 du Fonds de développement du sport paralympique. Le CPC reconnaît l'importance d'une solide programmation de développement sportif pour soutenir un système durable ainsi que les performances sur le podium. Le Fonds de développement est rendu possible grâce aux contributions de Sport Canada et du CPC. Le Fonds de développement cible les projets de développement du sport paralympique qui aident à développer les athlètes du terrain de jeu jusqu'au podium. Les montants varient entre 5 000 et 15 000 $. Grâce à ce fonds, le CPC investit dans la programmation de développement sportif, dont des projets de recrutement, d'entraîneurs, d'équipements, de compétition et autres. Les fonds peuvent être utilisés pour soutenir la création d'un nouveau programme ou servir à l'expansion d'un projet existant couronné de succès. Vous devez visiter le paralympique.ca/funding, donc paralympic.ca/funding, pour pouvoir soumettre vos candidatures et vous avez jusqu'au 12 janvier 2018. Maintenant, un petit peu plus près de chez nous, si on se transporte du côté du championnat de goalball qui avait lieu récemment, les Canadiens ont remporté la médaille d'or et les hommes en ont ajouté une de bronze au championnat américain de goalball de l'IBSA. Avec les 18 buts de la fer de lance Amy Burke, le Canada a gagné la médaille d'or féminine en fin de semaine au championnat américain. Les Canadiens, eux, ont obtenu celle de bronze. Les équipes masculines et féminines se sont qualifiées donc du même coup pour les championnats du monde qui auront lieu l'an prochain. Grâce à cette médaille dans la finale féminine, le Canada a défait le Brésil 6-4 dans le match de championnat. Et le Canada a obtenu la médaille de bronze dans le championnat masculin grâce à une victoire de 6-3 contre l'Argentine. Le Brésil a quant à lui défait les États-Unis par la marque de 8-3 pour se sauver avec la médaille d'or. Brendan Gaulin, qui est un Québécois avec qui j'ai déjà parlé, qui habite maintenant en Colombie-Britannique, a été le meilleur marqueur du Canada et le deuxième en tout du tournoi avec 17 buts. Et on passe maintenant au vif du sujet. Je suis très heureux de rejoindre Outre-mer Emmanuelle Asman, présidente du comité paralympique français, ancienne escrimeuse haut niveau, médaillée de bronze à l'épée aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004, qui a accepté de prendre quelques minutes. Je suis sûr qu'elle a un agenda très occupé ces jours-ci. Bonjour, Madame Asman.
Bonjour.
L'année en cours en est une assez importante, je suppose, pour vous, puisqu'en 2024, Paris va accueillir les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça représente à vos yeux, l'organisation de ces événements?
Alors déjà, ça représente 4 ans de travail, puisque c'est vrai qu'on a, voilà, on a fait 2 ans de candidature active. Et puis, c'est vrai que ce qui était bien, c'est que autant le comité olympique que le comité paralympique, on était très investis autour de Tony Estanguet et Bernard Lapasset, qui étaient nos deux coprésidents qui portaient cette candidature. Et même au préalable, on avait réfléchi pendant une grosse année sur le fait de savoir pourquoi on y allait, pourquoi on serait candidat, parce que comme vous le savez, on a subi quelques échecs avant. Et donc voilà, fallait remotiver les troupes et puis surtout redonner du sens et donner du sens à cette candidature. Et c'est vrai que ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'il y a forcément l'envie de réussir des Jeux Olympiques et Paralympiques magnifiques et avec une grosse célébration, que ce soit dans les stades, mais aussi hors des stades, dans la ville. Et puis dans les différentes villes qui vont accueillir aussi, on a Marseille sur la voile et puis les différents stades pour le foot. Mais surtout, voilà, de pouvoir offrir à tous, autant sur la partie olympique que paralympique, un vrai plaisir et une belle compétition. Mais on a aussi, et ça c'était important pour notre candidature, envie que ces Jeux soient un accélérateur de changement, et notamment sur la partie héritage. Nous, on a vraiment à cœur que ça fasse changer le regard sur le handicap, l'accessibilité autant sur les infrastructures sportives que sur les transports. Il y a un peu de boulot à Paris. Et puis aussi sur le fait que les Français et tous les Français, même ceux en situation de handicap, pratiquent un sport. Parce que moi, je l'ai vécu. Quand on a un handicap, le sport, c'est pas juste que du plaisir, c'est aussi un peu le certificat pour une autonomie conserver le plus longtemps possible. Et c'est sûr que entre le moment moi où je suis sortie de l'hôpital et où je faisais du haut niveau, j'avais regagné en termes de capacité et de compensation et d'adaptation avec ce nouveau corps qui présente pas les mêmes capacités, mais c'est vrai qu'un peu le propre de l'homme, c'est sa capacité à s'adapter et à pouvoir justement mettre en avant les capacités et pas tout ce qu'on peut plus faire.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer, de votre parcours sportif, vous avez vous-même pu être témoin de comment ça se passe, par exemple, à Athènes ou dans les autres grandes villes qui ont reçu les Jeux paralympiques? Est-ce que vous constatez qu'il y a une amélioration sur le plan des équipements accessibles puis de l'offre accessible en général aux citoyens handicapés?
Alors, c'est vrai qu'on a des pays qui partent de plus ou moins loin, ne serait-ce que même sur l'image de la personne en situation de handicap dans la cité, dans la société. C'est vrai que sur Pékin, on savait que les personnes en situation de handicap étaient plutôt cachées dans les familles, qui n'avaient pas forcément de métier, sortaient pas forcément beaucoup dehors, étaient un peu protégées et presque cachées.
Cachées, ouais.
Et que tout d'un coup, d'avoir des champions paralympiques, des champions paralympiques chinois, mais aussi de tous les pays, et de voir justement qu'ils étaient preuves de qu'ils pouvaient avoir des performances et que regarder des compétitions, c'était exaltant et inspirant. Ça fait qu'ils ont changé ce regard-là, et on sait bien que tout d'un coup, il y a ces champions-là qui ont été des ambassadeurs et qui ont permis à des personnes en situation de handicap d'aller chercher du travail, de sortir dans la rue. Après, il y a eu des efforts en termes d'accessibilité, ce qui est jamais simple, et ça sera un peu notre challenge, c'est que ces efforts en termes d'accessibilité soient pérennes. C'est-à-dire que ça soit eu pas uniquement pendant la quinzaine olympique et paralympique, mais que tout ça soit un peu de façon durable. Alors,
c'est un peu
Athènes,
le propre
ils ont mis
des...
un ascenseur pour monter au Parthénon. Il y est toujours, donc c'est quelque chose qui reste.
Ouais. C'est un peu le propre du défi de l'organisation des Jeux olympiques, j'ai l'impression, de ne pas laisser en désuétude par la suite, par exemple, des grands stades. Donc, si je comprends bien, vous allez travailler sur deux axes. Donc, un, vous espérez que ça ait un effet positif sur la perception du handicap, mais aussi concrètement sur le plan architectural, que ça ait des retombées. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Est-ce que ces retombées architecturales, ça va seulement se mesurer en termes de stades accessibles et de piscines accessibles, ou on pense aux citoyens qui ne sont pas nécessairement sportifs aussi?
Eh bien, justement, en fait, c'est vrai que ce projet-là qui est parisien, et français, c'est vraiment la spécificité, c'est qu'on a 95% des infrastructures qui sont déjà construites. Donc, on peut finalement pas avoir vraiment cette problématique d'éléphant blanc puisque les stades sont construits, on va faire des rénovations, on va de temps en temps faire des adaptations, il y aura des sites temporaires, et la seule grosse infrastructure qu'on va construire, c'est une piscine. Et donc, cette piscine a forcément accessible, et il y aura tout un enjeu après de l'utilisation au quotidien, mais une piscine en Seine-Saint-Denis, c'est important pour nous et on en a besoin. Maintenant, toute la partie qui est sur les transports, Donc ça fait partie aussi d'une vraie problématique que nous, on a en France et encore plus en région parisienne,
Ouais.
autour de Paris, c'est que pour l'instant, en dehors des bus et du tramway qui a été mis en place, le métro historique qui est sous terre, donc il n'est pas accessible. Et donc on essaie de voir comment, on va pas rendre tout le métro parisien accessible, faut pas non plus se dire que les jeux peuvent faire des miracles, mais par contre c'est comment on commence à construire le fait d'avoir quelques stations un peu stratégiques pour des pôles d'échange, et donc ça aussi sur l'information qui sera donnée, parce que on voit bien la différence peut-être avec Londres, c'est qu'ils ont pas mis tout leur métro accessible, mais il y avait des stations et surtout il y avait des plans très clairs pour savoir quelles étaient les stations qui étaient accessibles ou pas.
Parce que ça, c'est une
Et
bonne
aussi,
nouvelle, parce que
voilà.
dans les dernières années, quand j'entendais parler du métro parisien, ce que j'entendais, c'était on va vraiment comme laisser ça de côté et se concentrer sur le réseau de surface et les autobus. Mais là, vous me dites qu'il y a de plus en plus une volonté de rendre accessible partiellement certaines stations?
En tout cas, Paris 2024 a rouvert un peu cette porte-là. Nous, pour l'instant, on a le pied bloqué dans la porte. Je ne dis pas que c'est acquis. Je dis juste que si on n'y arrive pas maintenant, on n'y arrivera jamais. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment ce fait d'utiliser les jeux comme ce vecteur qui va permettre de dire, hey, c'est maintenant, c'est maintenant. Et quitte à ce qu'on ne soit pas prêt à enfin, que ce soit qu'un début, qu'en 24, il n'y en ait que 3, 4, j'en sais rien. Mais on ne dit pas qu'il faut que tout soit fini en 24, la vie continuera après, justement, parce que l'important, c'est que ça déclenche des choses. Donc, on a en fait, en tout cas, cette volonté, cette bataille-là, un peu chevillée au corps sur le mouvement paralympique, de dire c'est quelque chose sur lequel on va essayer de se battre. C'est des gros investissements en termes financiers. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on nous répond, c'est que ce n'est pas beaucoup de volume de personnes concernées par rapport au fait de désenclaver toute une région qui n'aurait pas de transport rapide et accessible. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que finalement, on parle souvent d'accessibilité universelle. Et donc, si on met un ascenseur pour atteindre une station de métro, ce n'est pas uniquement les personnes en fauteuil qui, elles, sont de fait exclues s'il n'y avait pas d'ascenseur, mais les personnes âgées, on sait bien que passer à un moment donné, quand elles ne sont pas un peu moins solides sur leurs jambes, elles ne prennent plus le métro parce qu'elles ont trop peur. Il y a trop de flopées de marche, il y a trop de, voilà, trop de chemin un peu difficile. Si on a des bagages, si on a une poussette, si on a, ouais, une difficulté momentanée, on sait que la problématique enfin, l'ascenseur dans les stations qui en ont, c'est pas majorité les personnes handicapées qui l'utilisent. Et donc, est-ce que le progrès, c'est justement pas de faire qu'on facilite la vie à tout le monde? Et donc, souvent, on parle de personnes handicapées, mais l'accessibilité universelle, c'est vraiment comment on fait que ce lieu soit partagé par tous, et on a un vrai progrès là-dessus. Avec voilà je dirais une volonté partagée d'ouvrir la cité à tous, mais cette accessibilité universelle, elle n'est pas que pour les personnes handicapées.
L'exemple de Londres que vous avez soulevé est intéressant parce qu'effectivement, de ce côté-là, bon, tout n'est pas parfait, mais depuis qu'ils ont organisé les Jeux olympiques, paralympiques, même le métro s'est mis en accessibilité depuis ce temps-là. Vous, est-ce que vous aviez déjà visité Londres, Emmanuel Hassmann?
Oui. Bah, du coup, moi, j'étais aux Jeux de Londres. J'avais été quelques fois auparavant plus professionnellement, mais c'est vrai que, en fait, c'est ça qu'ils n'ont pas rendu tout le métro accessible. Mais par contre, l'information est très facile à avoir. Bah, ce qu'on dit aussi, c'est que par exemple, là, on parle des personnes en fauteuil roulant, mais les personnes non-voyantes, les personnes handicapées mentales, les mal marchants, voilà. Souvent, c'est pas forcément un besoin d'infrastructure, de construction, mais c'est de l'information. C'est de la formation des gens qui sont dans le métro. C'est-à-dire, est-ce qu'on met de la panoptique et de la signalétique un peu plus grosse, avec une couleur qui est simple pour des gens qui pourraient avoir des difficultés de compréhension? Comment on sait qu'à cet endroit-là, on aura quelqu'un qui va pouvoir nous aider? Comment on sait qu'à cet endroit-là, on pourra sortir ou pas de la station? Et donc, ce qui nous manque aussi cruellement, nous, là, en France, et qui est très, très bien fait en Angleterre, c'est l'information simple et accessible très facilement pour pouvoir dire, ben, parce que souvent, moi, je le dis, la problématique qu'on a, nous, c'est qu'on ne sait pas si les lieux sont accessibles ou pas, et que maintenant, comme on a peu d'interlocuteurs, souvent c'est sur Internet qu'on va voir les informations où il y a des répondeurs, et puis souvent on voit bien quand c'est accessible aux animaux, quand la station la plus proche, mais on ne voit pas s'il y a une accessibilité, voilà, à tel type ou tel autre type de handicap. Et donc, c'est comment, justement, on va trouver de l'information simple. Mais ça, c'est valable pas uniquement pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est valable pour les touristes qui viennent à Paris. Mais pour moi aussi, qui y habite et quand j'ai envie d'aller dans un musée ou au cinéma ou au restaurant, j'ai envie de pouvoir me dire, ah bah tiens, je vais quelque part et je sais que ce restaurant ou ce café-là ou ce cinéma-là, je vais pouvoir y aller en fonction de mon type de handicap.
Ouais, d'avoir
et
l'information.
Donc là, là-dessus, il y a du boulot.
Très bien. Puis ben, en terminant, puisque le temps file, est-ce qu'un mot sur les attentes, disons un peu plus sur le plan sportif de l'équipe française? J'imagine qu'on va vouloir offrir une bonne performance en 2024, puis que les Jeux de 2020 aussi à Tokyo sont très importants pour vous.
Ah ben alors nous, on est en pleine préparation des Jeux déjà de Pyeongchang en 2018. Avec, on a fait notre J-100 là en annonçant le porte-drapeau Marie Bochet, notre skieuse. Et donc voilà, on travaille et on espère faire un beau top 5 à minima pour ces Jeux de Pyeongchang. Forcément, Tokyo est sur la route de 24 et donc on va essayer de construire une équipe de France paralympique avec les fédérations, notamment parce qu'il y a des sports sur lesquels on n'a encore jamais qualifié d'équipe de France. Je parle du volet assis, je parle du goalball. Et donc on a vraiment aussi, nous, tout un gros travail de détection et de préparation justement à emmener des équipes à l'international. Mais après, on a aussi les sports sur lesquels on est depuis longtemps et sur lesquels il faut qu'on aille chercher des jeunes, qu'on les prépare d'ores et déjà. Donc peut-être qu'on construira une équipe de France paralympique un peu plus grande. On en avait 126 athlètes à Rio, un peu plus grande pour préparer cette échéance, c'est vrai, de Paris 2024. Et c'est vrai qu'en ce moment, nous, on travaille beaucoup avec le ministère des Sports pour justement construire et une préparation pour la partie haut niveau, mais aussi, je le disais, une nation qui est un peu plus sportive et donc développer le nombre de pratiquants en situation de handicap en France. Parce que là aussi, on a un vrai challenge à remplir et faut qu'on utilise ce beau vecteur d'accélération que sont les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Merci beaucoup, Emmanuel Assmann, d'avoir pris le temps de nous parler
merci
aujourd'hui.
Merci à vous, j'étais bien contente d'échanger avec vous.
Pareillement.
Et puis je souhaite aussi bonne chance à l'équipe de France olympique et paralympique canadienne.
Bien sûr, merci beaucoup, merci.
Au revoir.
Au revoir. La France, qui, on le rappelle, aux Jeux de Rio de 2016, avait remporté 9 médailles d'or en tout. Ils avaient terminé 12e au classement cumulatif, bien, bien, bien loin derrière la Chine, qui avait ramassé 239 médailles au total. Je trouve ça vraiment étonnant, dont 107 d'or. Mathieu, en régie, a même sourcillé d'étonnement. On poursuit cette belle discussion dans un autre angle. En fait, je suis bien heureux puisque Elissa Roja, qui est originaire de Paris, en France, prend le moment aujourd'hui pour nous parler. Elle qui est avocate et qui est membre du CLE, un collectif de défense de droits des personnes handicapées en France. Bonjour Elissa.
Bonjour.
On a commencé tout à l'heure la conversation avec Emmanuel Assmann qui nous parlait en fait des Jeux paralympiques qu'elle nous présentait comme un vecteur de changement pour l'accessibilité en France et spécifiquement à Paris. J'ai cru bon t'inviter pour que tu nous donnes un autre point de vue sur la situation, mais peut-être avant, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ça ressemble à quoi côté accessibilité à Paris de nos jours?
Disons que déjà globalement en France, je pense qu'on peut pas dire que l'accessibilité soit une réalité. À Paris, notamment, la situation reste assez difficile globalement quand même pour les personnes handicapées. Il faut quand même savoir que le principe lui-même de la mise en accessibilité, il est vieux, il date de 75. Mais les choses ont difficilement avancé. Et en 2005, il y avait une loi importante qui devait venir modifier un peu les choses, ouais. Puisque c'est la première fois qu'on fixait un délai pour que les équipements publics et privés puissent se mettre en conformité. Et en 2005, on a fixé un délai de 10 ans. Mais le petit problème, c'est que juste avant l'échéance, une réforme est venue modifier en fait les textes et ajouter un dispositif pour permettre aux équipements qui n'étaient pas encore accessibles de bénéficier de délais supplémentaires qui vont de 3 à 9 ans. Et la réforme en a profité pour renforcer un peu les exceptions et les dérogations. Donc on ne peut pas dire que la volonté politique en France de faire avancer les choses soit très notable, et on est même un peu dans une phase d'incertitude, voire de régression.
Ouais, donc un peu à l'inverse du Québec, ici, il n'y a pas de loi coercitive qui donne un délai précis sur quand rendre accessibles les transports publics ou les établissements. En France, ça existe, cette loi-là, mais ce que vous me dites, c'est qu'il y a eu des délais qui ont été ajoutés, puis que c'est maintenant de plus en plus facile d'aller chercher des dérogations.
Oui, en fait, la loi, elle existe, mais déjà, il y a des limites, et puis elle n'est pas respectée, en fait, pour le moment, totalement, et il n'y a pas encore véritablement de mouvement d'action en justice ou de sanctions, donc ce qui fait que ça avance difficilement.
Emmanuel Hassmann nous parlait de leur intention de rouvrir la porte vers l'accessibilité du métro. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être tout un fouillis quand même de rendre accessible le métro de Paris, lui qui est l'un des plus vieux au monde. Puis pour déjà l'avoir visité avec le nombre de marches, je peux comprendre que ce soit un défi sur le terme d'ingénierie, là.
Oui, alors après, le problème avec le métro parisien, c'est que c'est compliqué de comprendre exactement, d'avoir les bonnes informations pour savoir, pour que les personnes concernées puissent comprendre ce qui bloque véritablement. Il y a beaucoup de choses qui sont pas très claires. Et pour faire une comparaison sur une ville importante de France, par exemple à Marseille, il y a également un problème d'accessibilité. Et donc la régie qui était responsable, du métro a longtemps dit qu'il y avait une impossibilité technique de rendre le métro marseillais totalement accessible. Et il se trouve que là, il y a une décision de justice pas très vieille qui a demandé une véritable expertise de toutes les stations, puisque la régie ne démontrait pas, n'avait pas la preuve de l'impossibilité technique. Et donc, une expertise va être chargée de vérifier qu'elle existe bien, cette impossibilité, dans toutes les stations. Et à Paris, on a un peu différents échos sur ce qui empêche de rendre accessible, et on a du mal à faire le tri et à savoir ce qui se passe véritablement au niveau du métro parisien.
J'imagine les Québécois et les Montréalais qui nous écoutent en ce moment, qui doivent sourire puisque ça va revenir aussi à la STM, en fait, cette idée-là de devoir prouver que les chiffres qu'ils avancent, qu'ils utilisent comme justification pour ne pas rendre accessible le métro, sont véridiques. Là, c'est en cours lors d'un recours collectif, donc évidemment qu'on va suivre ça de près. Si on revient quand même aux Jeux paralympiques, Elisa, vous, est-ce que vous étiez contente de savoir que Paris que la candidature de Paris avait été retenue pour organiser les Jeux paralympiques et olympiques?
Non, pas spécialement.
Toi, t'es pas une extrême fan de sport nécessairement.
Déjà, oui. et puis je pense que c'est aussi beaucoup de dépenses pour une ville.
Ouais.
Donc il n'est pas dit qu'au final ce soit forcément un plus, que ce soit pour les personnes handicapées ou pour les Parisiens en général.
Toi, quand tu entends le comité paralympique français qui dit que ça va vraiment servir d'accélérateur à l'accessibilité de Paris, vous réagissez comment à ces propos-là?
Franchement, moi, ce qui m'inquiète, c'est la façon dont on présente les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, parce qu'en fait, on nous les vend comme s'ils étaient presque magiques. En fait, on nous dit que ça va accélérer la mise en accessibilité, mais même que ça va transformer fondamentalement la société. On s'est écrit dans les publications que ça va la rendre plus équitable et solidaire, ce qui me fait quand même un peu sourire. Et là où c'est un peu inquiétant, c'est qu'on se dit que l'idée, c'est que notre sort dépend finalement des Jeux Olympiques, ce que je trouve un peu grave, puisque l'accessibilité et tout ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées devrait être une priorité, Jeux Olympiques ou pas Jeux Olympiques.
De facto.
Donc, qu'il y ait quelques améliorations en termes d'infrastructure, je pense que oui, effectivement, ça pourra faire un peu avancer, mais ça ne changera pas les textes qui sont en ce moment soit pas appliqués, soit qui contiennent des restrictions problématiques. Donc voilà, le métro par exemple, il faut être clair, ça ne va pas rendre le métro totalement accessible à Paris.
Puis ça pourrait même, selon vous, avoir l'effet contraire, en fait, de désengager la responsabilité de l'État envers le handicap en utilisant les Paralympiques comme justification, là.
C'est-à-dire qu'en fait, le danger, c'est que c'est de la communication, c'est pas de l'action politique. Donc ça changera pas forcément la réalité des personnes concernées. Et ce qui est ce qui nous inquiète, c'est que ça risque même de masquer la réalité des difficultés quotidiennes des personnes handicapées. Donc ça reste un événement sportif, mais ça remplace pas une politique publique digne de ce nom en matière de handicap. Et aujourd'hui en France, on ne l'a toujours pas. Et d'ailleurs à Londres, pour prendre un exemple récent, il y a eu l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais parallèlement, les personnes handicapées, elles ont quand même été touchées durement par des politiques d'austérité qui ont porté atteinte leurs droits de façon très grave. Donc, il y a un peu une hypocrisie dans la façon dont les choses sont présentées.
Mais est-ce que, concrètement, vous pensez pas, comme par exemple, si on vient au Québec, Montréal avait poursuivi les Jeux paralympiques en 1976, c'est Toronto qui les avait eus. 40 ans plus tard, on réalise que Toronto a une avance sur Montréal. Donc, est-ce qu'on n'a pas cette réflexion-là de dire, vaut mieux un peu que rien ou pas du tout dans votre cas?
Nous, on est très exigeants, on veut tout.
Mais c'est correct,
c'est
ça.
Possible.
Puis, en terminant, peut-être un mot sur, on n'a pas le temps d'en parler beaucoup, mais on espère quand même que les Paralympiques servent de donner une espèce de rôle modèle aux personnes handicapées puis les mettre à l'avant-scène de la société dans des contextes de succès. Est-ce que vous pensez que ça peut être positif pour les personnes handicapées, en un mot?
C'est bien que, évidemment, les sportifs handicapés, c'est normal, soient reconnus dans ce qu'ils font, comme toutes les personnes handicapées dans ce qu'elles font comme activité. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans une représentation, une survalorisation, comme ça avait été aussi le cas à Londres, où on parlait des athlètes comme de super-humains. Il ne faudrait pas qu'on pense que pour être accepté dans cette société, il faut forcément être exceptionnel et comme pensent certaines personnes, surpasser son handicap. On pense que c'est une image qui peut être également dangereuse et se retourner contre les personnes handicapées elles-mêmes, puisqu'elles s'opposent à celles aux personnes handicapées qui seraient supposément plus faibles, qui n'auraient pas la volonté de s'en sortir, alors qu'en fait, c'est pas une question de volonté individuelle,
mais de contexte
social.
Merci Elissa, merci beaucoup.